Parlons peu, parlons bien. De l'éthique des journalistes.
Parlons peu, parlons bien. De l'éthique du journalisme.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de la web radio du lycée agricole à Bloc Radio. Nous sommes les élèves de seconde B groupe 1.
Bonjour.
Nous avons travaillé depuis septembre 2016 en cours d'éducation morale et civique avec Madame Fossard et en cours d'information documentation avec Madame Robert sur le projet Onde de choc. Pour découvrir un média, la radio, et découvrir différemment un thème au programme de notre formation, les médias. Notre émission s'appelle « Parlons peu, parlons bien » de l'éthique des journalistes. Nous avons eu la chance pour cette émission de pouvoir interviewer, recueillir la parole de trois journalistes professionnels et pas des moindres. Vous les entendrez au fur et à mesure de l'émission, restez bien à l'écoute. Nous sommes également allés à la rencontre de nos camarades dans les micro-couloirs et à la rencontre d'habitants d'Auch. Pour commencer, rien de tel qu'une mise au point. Si nous parlons de l'éthique des journalistes, c'est ce que ces derniers y sont tenus précisément par un texte, une charte. Martin va nous expliquer. Bonjour Martin, que peux-tu nous dire sur la charte ?
Bonjour Hugo. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs, des pouvoirs publics. La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent et je vous en donner quelques exemples extraits de la charte de Munich de 1971. En premier, il y a respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences, publier seulement les informations dont l'origine est connue et ne pas altérer les textes et les documents, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies, s'obliger à respecter la vie privée des personnes, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Plus généralement, il leur faut refuser toute pression. Dans la déclaration des droits, il y est dit que la journaliste ne peut être contrainte à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
Écoutons maintenant les micro-trottoirs de Beaulieu.
Est-ce que vous pensez que les journalistes font bien leur rôle et est-ce que vous leur faites confiance ?
Non, pas du tout. Leur avis est trop subjectif à mon goût et c'est connu que la plupart des scènes sont achetées à une cause.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte ? Si oui, connaissez-vous quelques règles de cette charte ?
Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Je n'étais même pas au courant.
En général, par Internet principalement.
Que pensez-vous des journalistes et de leur rôle, du travail qu'ils font ? Est-ce que vous leur faites confiance ?
Leur rôle est relativement important dans le sens où s'ils ne nous informaient pas de ce qui se passe dans le monde, on ne serait sûrement pas au courant, mais à côté de ça, il faut quand même faire gaffe. Ils ne sont pas forcément réalistes sur tout point de vue, il y a toujours un penchant pour un côté ou pour un autre, donc bien que... On s'informe, faut pas les croire sur parole et faire des recherches en plus si on n'est pas sûr.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte ? Si oui, est-ce que vous connaissez une règle ?
Non, j'en savais rien du tout. Et c'est quoi la règle ?
Il y en a plusieurs, il y a des règles comme quoi on doit respecter un minimum la vie privée des gens quand même. Ça c'est basique.
Visiblement, ils la respectent pas toujours.
Ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a une charte qui est internationale pour les réglementer dans... leurs propos et dans leurs recherches.
Ouais, je pense que c'est une bonne initiative d'avoir instauré cette charte, bien qu'il y a sûrement des à côté, toujours, il y en aura toujours. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça les limite au niveau de ce qu'ils peuvent mettre dans les actualités.
Au niveau de leurs actions et de leurs actes et de leurs pensées.
C'est bien qu'ils fassent leur travail, après faut pas non plus qu'ils s'impliquent trop, comme tu as dit, dans la vie privée des gens. Faut pas qu'ils essayent non plus de forcer les gens à témoigner ou quelque chose du genre. C'est eux de chercher l'information, ils sont payés pour ça. Qu'ils prennent des partis à côté de ça, c'est pareil. Ils sont journalistes, ils doivent être neutres. Laisser les lecteurs réfléchir à ce qu'ils disent et non leur laisser les pencher vers un côté ou vers un autre.
D'accord, merci. Okay. Au revoir. Comment vous vous informez de l'actu en général ?
Donc, je m'informe sur Internet, à la télévision, et j'ai des applications de journal comme Le Monde, etc.
Que pensez-vous des journalistes, de leur rôle, de leur travail, et est-ce que vous leur faites confiance ?
Alors, je pense que les journalistes ont un rôle important pour informer n'importe quelle personne, que ce soit des enfants, des adolescents, des personnes adultes ou âgées. Il y a toujours quelque chose à savoir, donc ils ont toujours un rôle complémentaire. Après, parfois je fais confiance à certains... Enfin, on ne sait pas comment faire confiance aux journalistes. Parfois, ils disent toute la vérité, parfois ils la cachent. Ou parfois, ils sont pas du tout...
Ils sont pas du tout exacts dans leurs propos.
Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend des points de vue.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte ? Si oui, est-ce que vous connaissez certaines règles ?
Alors, je ne savais pas qu'ils avaient une charte à respecter. Et donc, les règles, j'en ai aucune idée.
Bonjour.
Comment vous informez-vous de l'actualité en général ?
Grâce à la télévision ainsi qu'aux journaux.
Que pensez-vous des journalistes ? Leur rôle, leur travail?
Je trouve qu'ils font quand même un travail intéressant. Au niveau de la société, je trouve qu'en gros, s'ils ne participaient pas, bah, ce serait un peu moins chouette, on ne serait pas informé de beaucoup de soucis qui se passent actuellement.
Est-ce que vous leur faites confiance?
Oui et non, parce que si ça se trouve, en fait, ils modifient les informations pour que ça aille dans leur sens et ils disent pas totalement la vérité.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte?
Ça, je ne savais pas.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous informez-vous sur l'actualité en général ?
La plupart du temps, c'est soit à la télé en regardant les actualités, soit sur Internet.
Que pensez-vous des journalistes, leur rôle et leur travail ?
Ben, ils font un travail assez compliqué, mais j'ai tout mon respect pour eux. Et vu ce qui s'est passé dernièrement avec les attentats, ça va pas être facile.
Est-ce que vous leur faites confiance ?
J'irai pas jusque-là, parce qu'il y en a forcément qui racontent des fois des conneries, mais oui, en quelque sorte. C'est quand même eux qui informent le pays, donc il y a quand même... petite dose de confiance.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte ?
Non, je ne savais pas.
Comment vous informez-vous de l'actualité en général ?
Je ne m'informe pas beaucoup de l'actualité. Il y a à la maison la radio allumée pendant les repas, mais sinon je ne m'informe pas. Les journalistes ont des choses importantes à dire, des faits à rapporter, mais ils peuvent aussi modifier ou amplifier certaines choses.
Est-ce que vous leur faites confiance ?
Ça dépend de ce qu'ils disent. Pas toujours.
Dans quel cas ?
J'ai pas d'exemple.
Savez-vous qu'ils doivent respecter une charte ?
Non, je l'ignorais.
Voulez-vous qu'on vous donne des exemples, les exemples principaux ?
J'aimerais bien.
Ils doivent établir la vérité, et dire la vérité. Est-ce que vous pensez qu'ils font vraiment ça ?
Sur des bases fondamentales, ils peuvent dire la vérité, mais en la nuançant. Du coup, il faut toujours avoir un esprit critique sur, sur ce qu'ils disent.
Qu'est-ce qui peut vous faire penser ça ?
Alors en cours, les profs nous disent qu'on doit toujours avoir un esprit critique sur les choses. Et puis nos parents, notre éducation, ils nous disent toujours d'avoir un esprit critique sur tout ce qui nous est dit. Donc voilà.
Bien, merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était le micro-trottoir et Bastien va nous dire deux mots.
Alors, on a pu constater que principalement les personnes interviewées ne faisaient pas confiance ou pas totalement confiance aux journaux, qu'ils s'informaient principalement par la télé, Internet et quelquefois la radio. Les personnes interviewées ne savaient pas, n'étaient pas au courant qu'il y avait une charte qui régissait les droits et les devoirs de chaque journaliste, une charte internationale. Et généralement, les personnes interviewées ont aussi cherché par eux-mêmes l'information et ne font pas justement, vu qu'ils ne font pas totalement confiance, cherchent eux-mêmes l'information et vérifient les sources et donc ont un minimum de sens critique. Ils pensent que les journalistes font un travail intéressant, mais qu'ils peuvent souvent prendre parti et fausser l'information, ce qui est dommage.
Bastien va nous parler maintenant du baromètre des médias.
Alors, la méfiance anti-média a atteint les sommets le 3 février 2017, selon des statistiques développées par le journal La Croix. Les gens font de moins en moins confiance aux médias, même si depuis toujours les Français n'ont pas eu totalement confiance en eux. La radio et le média auquel les gens font le plus confiance, même si elle a perdu 3 points depuis janvier 2016. Elle est suivie par les journaux et la télévision, qui ont tous deux sur un pied d'égalité. Enfin, il y a Internet, qui se retrouve en bas du classement et qui a 26 points de moins que la radio au niveau de la confiance. Les Français pensent à 67% que les journalistes ne résistent pas aux pressions des partis politiques et à 58% qui ne résistent pas aux pressions dues à l'argent. Les gens sont d'abord informés par la télévision à 48%, par Internet à 25%. C'est le pouvoir des écrans, on dit. Sur Internet, les principales sources d'information sont les sites de presse écrites à 28% et les réseaux sociaux à 19%. Les utilisateurs de réseaux sociaux ne font pas confiance aux informations qui circulent à 73%. Et il y a 83% des personnes interrogées qui ont dit avoir repéré plusieurs fois de fausses informations qui ont circulé sur Internet. Donc il ne faut pas confiance, même s'ils utilisent beaucoup leurs moyens de recherche.
Merci Bastien. Vous êtes toujours sur A Bloc Radio, dans l'émission des secondes B groupe 1. Parlons peu, parlons bien de l'éthique des journalistes. Transition vers les reportages réalisés à Hoche le 1er mars dernier.
C'était pas prévu que vous croisiez des journalistes aujourd'hui, quoi. Non. Mais vous avez quand même les questions écrites sur un papier.
Posez les questions des autres, non ?
Si tu veux.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que les médias qui sont votre métier ont un certain pouvoir au niveau de la société ?
On peut peut-être appeler ça du pouvoir, ça dépend de la définition du mot pouvoir en fait, c'est un peu...
Par exemple, ça pourrait aider à influencer les gens sur certaines décisions qu'ils pourraient prendre comme...
Les influencer non, les aider à prendre
des décisions.
En tout cas, les aider à prendre des décisions, les aider à réfléchir, les aider à se poser des questions, oui.
Voilà.
Mais on n'est pas là pour les diriger quelque part ou les influencer, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est plutôt de leur apporter toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin pour se décider ou pour connaître ce qui se passe autour d'eux.
Et quelles règles d'éthique vous vous donnez dans votre travail ?
Ça, c'est très vaste aussi comme question. Dans quoi ?
Quelques exemples.
Ne pas trahir la parole des gens qu'on interviewe, par exemple. Ne pas essayer de couper un tout petit passage de quelqu'un qui ne voudra pas du tout dire la même chose que si on avait gardé la phrase un peu plus longue, même si on peut, parfois on pose des questions à des gens pendant 10 minutes et au final dans le reportage on va garder 20 secondes. Mais c'est pas parce qu'on prend quelque chose de très court qu'on trahit leur parole. On essaye de résumer ce qu'ils ont voulu dire et on choisit le meilleur passage pour eux et pour le téléspectateur. Voilà. Donc mais il faut faire attention de ne pas charcuter l'interview, de prendre un petit bout là, un petit bout à droite, à gauche, qui pourrait faire une phrase finalement qui ne voudrait plus rien dire ou qui sortie de son contexte serait complètement différente de. Voilà. Ça, par exemple, pas d'interview cachée, voilà, interviewer quelqu'un discrètement sans montrer qu'on a un micro ou une caméra cachée, des choses comme ça. Même si parfois les caméras cachées dans notre métier, ça peut servir à dénoncer des choses.
À part s'informer, d'après vous, à quoi servent les médias dans la société ?
Ben, à rien d'autre, à s'informer. Mais s'informer, ça veut parfois aussi dire, c'est vaste, informer les gens, c'est aussi parfois dénoncer des choses. Comme là, apparemment, l'affaire de la femme de François Fillon, ça a beaucoup déplu aux partis politiques en question que des journalistes dénoncent ce qui s'était passé. Il y a même Fillon, je crois, qui a dit que c'était un danger pour la démocratie, ce qu'avaient fait les journalistes, mais au contraire, non. C'est pas un danger pour la démocratie. Il y a des journalistes qui ont dénoncé une faute d'un homme politique et c'est bien que les gens sachent ce qui se passe, quoi. Informer, c'est très très vaste. Ça veut parfois dire aussi dénoncer entre guillemets des actes qui sont répréhensibles. C'est pas que dire aujourd'hui le train est arrivé à l'heure, tout s'est bien passé. Et voilà, malheureusement aussi notre travail c'est de dire les choses qui vont pas.
Donc première question, comment vous informez de l'actualité en général ?
À la télé, oui, que la télé. La télé ou la radio, mais pas les journaux.
D'accord. Et vous vous informez régulièrement ?
Ah oui, tous les jours, j'ai que ça à faire.
Quelle est pour vous la définition d'un journaliste ?
Alors ça, qu'ils nous disent la vérité.
Donc c'est quelqu'un pour vous qui doit dire la vérité.
Voilà.
D'accord.
Mais c'est pas toujours le cas. Il brode.
Ok. Et quel type de journalisme ou de presse vous intéresse le plus ?
Ben les journaux télévisés.
D'accord. Et selon vous, jusqu'où doit aller un journaliste pour obtenir une information ?
Et ben, s'il est vraiment féru, il va faire tout ce qu'il peut pour l'avoir, mais je ne peux pas vous dire exactement moi ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Il faut qu'il fasse son métier.
Et que pensez-vous du rôle dans la société et du travail des journalistes ?
Ben, le rôle, justement, c'est un peu en ce moment-là, c'est un peu eux qui font la loi, mais enfin qui nous disent, oui, puis des fois c'est pas toujours vrai, mais c'était pas ça que je voulais dire.
D'accord. Et donc pour vous, l'information des médias n'est pas toujours juste, n'est pas toujours vraie.
Non, c'est pas.
Et en général, vous ne leur faites pas confiance du coup.
Ben, des fois on fait confiance, et puis après, peut-être 8 jours après, on dit ben mince, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, c'est des balivernes.
D'accord, madame. Mais merci de nous avoir répondu et bonne journée. Quelle est pour vous la définition du journalisme ?
C'est de porter à la connaissance de tous les gens, des événements qui se produisent dans le monde, en France, dans la région, et pourquoi pas dans la ville où on habite.
D'accord, merci. Est-ce que vous savez que le journaliste doit respecter une charte, des règles et un ex ?
Normalement, oui, il y a une éthique. J'espère que tous les journalistes procèdent comme ça, ont une certaine éthique. Oui.
D'accord. Selon vous, jusqu'où doit aller un journaliste pour obtenir une information ?
Les journalistes qui grattent un petit peu, ça, c'est normal, mais peut-être pas exagéré non plus. Il y a certains cas où ils sont un petit peu dérangeants, je crois, pour la vie privée de certaines personnes. Quoi.
D'accord.
Je pense aux paparazzi. Oh, est-ce que c'est des journalistes ? Je pense pas d'ailleurs, c'est pas des journalistes.
D'accord. Et l'information des médias est-elle toujours juste et utile pour vous ?
Pas juste, sûrement pas. Il y a les journaux d'opinion, il y a les médias d'opinion. Ils voient les choses avec un certain prisme. Il faut se rattacher à quelque chose, il faut bien croire en quelque chose. Alors bon, pourquoi pas ?
Donc, merci monsieur de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Voilà, vous avez entendu quelques avis sur la question, et notamment celui d'une journaliste de France 3 Toulouse rencontrée par hasard au Garros, qui était elle aussi en reportage. Maintenant, musique. Écoutons Où es-tu de Patrick Bruel.
Dépêche AFP, un coup de fil. Tu dois partir. Vite, un sac photo, tes objectifs. De quoi écrire. Dans cette rue qui dort, je te sers fort. Fais gaffe à toi. Je sais que tu n'as pas peur, mais moi, j'ai un peu froid. Ton avion s'envole encore vers quelle guerre, vers quel combat.
Maman, elle est partie.
Une fois de plus, les enfants demanderont pourquoi tu y vas. Une fois de plus, je répondrai que sans leur maman, personne ne saura. Et que pendant tout ce temps, seules tes images parleront de toi. Tu es parti et tes messages se font rares. À la radio, ils ont dit que les rebelles prennent le pouvoir. Ce matin, à l'école, les enfants ont entendu l'histoire. Moi, je crève de ne pas sentir ta peau quand vient le soir. Devant la télé, je sais le prix de chaque image. Tellement peur de voir ton nom un jour en première page. Journaliste enlevé toutes les télés, parle que de ça. Un peu partout ta photo avec écrit, on t'oublie pas. Les enfants me regardent, ne disent rien, on t'attendra.
Voilà, nous venons d'écouter « Où es-tu ?» de Patrick Bruel, et Bastien va nous résumer son message.
Le chanteur qui parle à sa femme, journaliste, qui part à l'autre bout du monde pour faire un reportage, comme son travail l'exige. Il demande où elle est, parce que, et il ne sait pas, parce qu'elle doit souvent partir du jour au lendemain, et sans donner d'indication à sa famille et ses proches, pour leur dire où elle est exactement. Il a peur pour elle, puisque les rebelles sont apparemment en train d'envahir le pays et qu'elle risque sa vie, et elle se fait enlever. Moi, je trouve personnellement que la chanson représente bien la vie des proches des journalistes. Ils sont tout le temps dans l'angoisse que quelque chose arrive à leur proche qui est parti faire son travail, et aux proches qui partent pour faire des reportages dans des pays à risque et à l'étranger.
Prenons connaissance à présent des idées d'une grande journaliste sur la question qui nous occupe, l'éthique. Nous avons interviewé notre grand témoin, Madame Raphaël Baquet, grand reporter au quotidien Le Monde. Elle a en effet accepté de répondre à nos questions par mail, à notre grande joie. Mais Kylian et Alice vont nous en dire plus.
Bonjour, voici la synthèse de notre interview d'une invitée d'honneur qui a très aimablement accepté de répondre aux questions que nous souhaitions poser à une journaliste. En effet, Raphaël Baquet, grande reporter pour le journal Le Monde, a répondu de façon très détaillée à toutes nos questions envoyées par mail. Et nous la remercions vivement de nous avoir accordé de son temps. Raphaël Baquet est né un 1er février à Paris et est diplômé du Centre de formation des journalistes en 1988 et de l'Institut d'études politiques de Paris en 1987, en plus d'être titulaire d'une licence de droit public. Elle débute sa carrière à l'agence France Presse, puis travaille pour France Soir, où elle est envoyée spéciale pour les pays de l'Est. En 1992, elle rejoint le journal Le Parisien, puis l'hebdomadaire Marianne, où elle couvre la politique intérieure, pour finalement devenir journaliste pour Le Monde en 1998. Raphaël Baquet n'est pas uniquement journaliste, elle est également écrivaine. Elle a écrit de nombreux livres, dont un parlant de la campagne électorale de Ségolène Royal, qu'elle a couverte en 2007. En plus de cela, elle est présente à la radio comme à la télévision, où elle commente l'émission « C'est dans l'air », ou encore ayant consigné le scénario du téléfilm « Silence des temps 2013 ». Ainsi, cette grande journaliste nous a communiqué des réponses développées et construites aux quelques questions que nous souhaitions lui poser. Premièrement, nous avons souhaité savoir quelles règles les journalistes s'imposaient dans leur travail, ce à quoi Raphaël Baquet a répondu.
Les journalistes se conforment à l'éthique générale, c'est-à-dire aux règles juridiques et morales qui régissent généralement nos sociétés, droit de la presse ainsi que respect de la dignité humaine, honnêteté, etc., auxquels ils doivent souvent ajouter toute une série d'arbitrages difficiles. Nous sommes en effet sans cesse confrontés à des questions comme comment se conduire face à un criminel potentiel lorsqu'on couvre un fait divers, comment publier les éléments d'une enquête alors que le seul fait de publier le nom de quelqu'un peut briser sa carrière, etc. Ces questions font partie de la vie quotidienne d'un journal. Nous y répondons souvent après des discussions approfondies et collectives au sein de la rédaction ou entre la rédaction en chef et le journaliste enquêteur. Les questions sont parfois complexes, elles mettent en jeu l'arbitrage entre l'information et le respect de l'individu, et il est parfois impossible d'édicter sur ces sujets une règle générale tant nous pouvons procéder au cas par cas.
Ainsi, Raphaël Baquet nous explique la difficulté à laquelle se confrontent chaque jour les journalistes pour respecter les règles de l'éthique, tout en informant la société. Quotidiennement, ils sont face à des dilemmes entre le droit à l'information et le respect de la vie privée d'autrui. Et il est parfois extrêmement difficile de trancher. Entre deux affaires semblables, l'une peut être publiée et l'autre non. Tout cela revalant juste de l'importance que peut avoir celle-ci sur les lecteurs. Toute l'information tient sur le juste milieu entre le respect et le droit en opposition, ce qui peut s'avérer parfois difficile et sujet de longues réflexions. Les journalistes s'imposent donc des contraintes morales propres à chaque affaire, en plus du respect de l'éthique.
Nous nous imposons d'abord et avant toute chose l'honnêteté. Donner le point de vue et la parole à chaque partie. Ne pas accuser quelqu'un sans donner également sa version.
Nous dit-elle pour conclure sa réponse à notre question. Ensuite, nous lui avons demandé comment garder une objectivité dans le traitement de l'information quand on travaille pour un média orienté politiquement ou possédé par un grand groupe. Raphaël Baquet nous a donc dit.
Le directeur du Monde, Hubert Beuve-Méry, disait toujours « Le journalisme, c'est le contact et la distance. Il faut approcher les pouvoirs et les individus, les événements et en traiter avec la distance nécessaire. Au Monde, nous essayons de tendre vers l'objectivité, mais le public ne la réclame pas forcément et il y a un journalisme d'opinion ou engagé qui rencontre aussi un grand succès. Ainsi, le journalisme objectif, ou tendant à l'être, n'est pas le seul journalisme, ni même aujourd'hui celui qui a le plus de succès. Pour ce qui concerne l'actionnariat du journal, c'est un problème un peu différent car il s'agit là d'arbitrer éventuellement avec les intérêts économiques de l'actionnaire. Tout cela est fragile, cependant, et on a vu des médias aux prises avec leurs propriétaires entraînant le départ d'un grand nombre des journalistes.
Comme Madame Baquet nous le dit, il existe différents types de journalisme. Le journalisme objectif, où l'objectivité est une chose demandée à la rédaction, comme le journal Le Monde, le journalisme éditorial, où contrairement au journalisme objectif, l'opinion est demandée, et pour finir, la presse à scandale, où l'effet de buzz est la première chose à rechercher. L'information pouvant être non véridique, l'objectivité dépend donc du journalisme auquel nous avons affaire. Le succès du journal en dépendant aussi par ailleurs, par exemple, le journalisme objectif rencontre en moins grand que les autres types de journalisme. Également, le fait d'appartenir à un ou plusieurs actionnaires peut aussi modifier le type de journalisme et donc l'importance de l'objectivité au sein d'un journal. Certains journaux, comme Le Monde, peuvent être possédés par plusieurs actionnaires, mais au Monde, la rédaction dispose d'un droit de veto sur le choix du directeur de la rédaction. En conclusion à tout cela, l'objectivité d'un journal dépend du type du journalisme traité par le journal, lui-même pouvant être modifié par le fait d'avoir des actionnaires et des conflits entre eux. Ensuite, nous avons demandé jusqu'où les journalistes sont capables d'aller pour avoir une information, ce à quoi la réponse de Madame Baquet a été.
À téléphoner des heures, à me débrouiller pour entrer dans tel ou tel endroit pour trouver un interlocuteur, à passer des nuits blanches pour lire des documents, mais ni à voler, ni à tuer, ni à mourir.
C'est donc clair, les journalistes sont capables de tout pour permettre à la société d'être informée, tant que cela n'enfreint aucune règle pouvant les mettre en tort ou en danger. Nous avons aussi souhaité savoir s'il lui était déjà arrivé de déroger à la charte du journaliste, et si oui, dans quel cas, sa réponse fut.
Je pense que 98% des lecteurs ne connaissent pas la teneur de la charte des journalistes, ni même son existence. Le crédit d'un média se construit année après année, par la qualité de rigueur et d'écriture de ses journalistes, sa capacité à reconnaître ses erreurs aussi. De la même façon, nous publions des rectificatifs, des droits de réponse ou des textes de notre médiateur lorsque nous avons mal couvert un événement ou publié une erreur. Nous faisons aussi attention aux photos ou aux vidéos que nous publions car il est facile d'induire en erreur le lecteur par une prise de vue, un recadrage ou une retouche photo. Nous nous interdisons ainsi tout recadrage ou retouche photo ainsi que des prises de vue qui ridiculiseraient quelqu'un.
Comme Raphaël Baquet nous le dit, beaucoup de personnes ignorent l'existence de la charte du journaliste. Il peut arriver à certains journaux de publier une erreur, l'essentiel étant de la corriger. En effet, les journaux publient de nombreuses informations, et pour le journalisme, objectif du moins, la vérité et la justesse de l'information sont tout aussi primordiaux. Il peut arriver de déroger à la charte du journaliste involontairement, cela faisant partie du métier de journaliste, mais leur devoir est également de corriger ces erreurs dans la mesure du possible. Raphaël Baquet rajoute.
Nous faisons face aujourd'hui à une concurrence nouvelle liée en effet aux réseaux sociaux qui mettent sur le même plan médias sérieux et n'importe quel utilisateur du web. Tout le monde peut publier un texte, diffuser une photo ou une vidéo, affirmer tout et n'importe quoi. C'est à la fois un progrès de la liberté d'expression et un grand tourbillon où se retrouvent sans hiérarchie vérité et mensonge. C'est une énorme difficulté, non seulement pour les médias, mais pour les institutions démocratiques. Nous sommes d'ailleurs contestés comme le sont des élites dans bien des démocraties occidentales. Cela nous oblige à réfléchir sur nos pratiques, à diversifier nos moyens de diffusion. Ainsi, le Monde est lui aussi présent sur les réseaux sociaux afin de pouvoir diffuser ses informations.
Raphaël Baquet évoque ici les nouvelles difficultés que rencontrent les journaux. En effet, le domaine virtuel et informatique prennent de plus en plus d'importance dans l'information. Il faut donc, en tant que journaliste, continuer avec encore plus de rigueur à communiquer des informations véridiques et en s'en assurant encore plus de ses sources, mais également s'adapter de plus en plus aux moyens d'information utilisés par la population pour informer et toucher un maximum de lecteurs. En plus de prendre là-dessus sur toutes les fausses informations, en résumé, il s'agit d'informer avec une plus grande vigilance sur plus de domaines pour s'assurer que les informations véridiques ressortent des fausses informations.
Nous avons ainsi terminé notre interview. Nous remercions encore Madame Raphaël Baquet pour toutes ses réponses et sa disponibilité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous espérons avoir pu vous apprendre de nouvelles choses et vous souhaitons une très bonne suite d'émissions.
Merci à Kéliane et Alice. Nous avons également sollicité un jeune journaliste, Monsieur Henri Leroux, qui a accepté d'enregistrer ses réponses à nos questions. Nous écoutons ce qu'il nous a envoyé.
L'éthique, pour moi, c'est un ensemble de règles morales qu'on s'impose à soi-même, notamment dans le cadre de son travail. Il s'agit plutôt d'un positionnement individuel, contrairement à la déontologie, qui elle, correspondrait à des règles encadrant l'exercice d'un métier qui sont établies par des pairs ou par la loi. Quelles règles vous imposez-vous dans votre travail de journaliste? Quand on exerce le métier de journaliste, on est souvent confronté à des pressions, que ce soit de la part de personnes, d'entreprises ou d'institutions sur lesquelles on travaille, par exemple la police nationale, voire de la part de son propre employeur, selon si on est pigiste ou salarié. Selon moi, il faut tout faire pour résister à ces pressions, même si ça implique parfois de ne pas travailler avec certaines entreprises de presse. Le journaliste, il a une responsabilité sociale, parce que les citoyens ont le droit à une information honnête. Lorsque l'on recueille la parole de quelqu'un, on s'engage à la transmettre fidèlement au public. C'est pour ça que le fait de signer ses articles, par exemple, qui peut paraître anodin, en fait, c'est très important, parce que le journaliste doit assumer ce qu'il écrit. Lorsque nous avons créé une petite agence de presse à Nantes en 2015, l'ESCA Presse, qui n'existe plus depuis 2016, mes collègues et moi-même avons rédigé notre propre charte, dans laquelle on expliquait le sens que l'on voulait donner à notre travail, et dans laquelle on s'engageait à servir l'intérêt collectif. Comment garder une objectivité dans le traitement de l'information si on travaille pour un média orienté politiquement ou possédé par un grand groupe? Personne ne peut être réellement objectif. On est tous le fruit d'une construction sociale, de notre histoire. On est né dans une famille donnée, on a fait tel type d'études, on a fréquenté tel type de personnes, et notre environnement familial, scolaire, professionnel, il dit beaucoup de choses de ce qu'on est. C'est pour ça que pour cette raison que moi je considère qu'il vaut mieux travailler pour un média dont on accepte la ligne éditoriale. Personnellement, moi j'évite ceux qui sont possédés par des grands groupes, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de faire accepter un sujet par une rédaction. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour avoir une information? La première chose que j'avais envie de répondre, c'est en Pologne pour le moment, puisque c'est l'endroit où j'ai été le plus loin pour faire un reportage. Mais plus sérieusement, j'ai déjà pris quelques risques physiques mesurés, notamment lors de manifestations. Mais j'ai jamais enfreint les règles déontologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est engagé dès le début à respecter dans notre travail. D'après vous, les différentes chartes de journalistes sont-elles connues et respectées? Je pense que les deux principales chartes, celle de Munich de 71 et celle du SNJ, qui a été du coup mise à jour en 2011, sont connus par la majorité des journalistes parce qu'ils les ont étudiés pendant leur formation. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ne respectent pas ces règles. Après plusieurs années de pratique, ils se relâchent, parfois sous la pression aussi des personnes qu'ils interrogent ou qu'ils fréquentent au quotidien. Ils acceptent des cadeaux. Alors maintenant, c'est souvent déguisé en voyage de presse, il y a des subtilités, mais ça reste des pratiques qui sont interdites par la profession parce qu'elles permettent d'avoir une influence sur un journaliste. Elles sont contraires à l'intérêt collectif. Et en fait, elles nuisent même au droit à l'information, comme la censure ou l'autocensure, qui sont clairement identifiées dans ces chartes et comme nuisibles à l'intérêt collectif. Et pourtant, on voit très bien, en ayant fait des stages, en ayant travaillé, ou même en ayant simplement fait des piges pour un journal, on voit très bien qu'elles sont largement répandues au sein des rédactions. Estimez-vous que les citoyens, les jeunes notamment, ont un peu perdu confiance en les médias traditionnels? Si oui, comment l'expliquez-vous? Et est-ce que c'est par la concurrence des réseaux sociaux? Effectivement, j'ai le sentiment que les jeunes ne font plus confiance aux grands médias, qu'ils critiquent de plus en plus, parfois avec raison, mais ils continuent de s'informer devant Facebook et BFM. Pour moi, il faut apprendre à différencier la production des médias dits mainstream du travail réalisé sur le terrain par des journalistes et des médias indépendants, associatifs, militants par exemple, Jusque dans les quartiers, il y a des journaux très intéressants. Beaucoup de ces journaux, imprimés ou en ligne, voient le jour chaque année en France. Il y a beaucoup de choses encore qui restent à inventer, et certains de ces projets méritent d'être soutenus. On parle aussi beaucoup de la transformation de la presse, du passage au tout numérique, mais le vrai problème aujourd'hui en France, et ce que critique le public, et notamment les jeunes, c'est la concentration des médias dans les mains d'un petit groupe de très riches industriels. Leur intérêt à eux, ce n'est pas celui du grand public. Ils ne veulent pas d'une information libre et indépendante. Et voilà, on voit que, selon Reporters sans frontières, la France est classée 45e en termes de liberté de la presse, en 2016, ce qui ne s'arrange pas avec l'état d'urgence et les lois sur la sécurité et le numérique qui ont été votées depuis les attentats en France. La France a donc perdu 7 places par rapport au classement 2015.
Nous remercions sincèrement M. Henri Leroux d'avoir témoigné sur Abloc Radio de sa vision du métier de journaliste. Maintenant, musique. Écoutons 21 Pilots, Eatons.
Smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Vous êtes toujours sur ablocradio.fr dans l'émission Parlons peu, parlons bien de l'éthique des journalistes, réalisée par les élèves seconde B groupe 1. Nous venons d'écouter 21 Pilots, Eatons. Le 20 mars dernier, sur le site de l'Avacant de notre lycée, nous avons fêté pour la première fois le printemps de la radio, avec des invités bien sûr. Parmi eux, il y avait Florence Aubenas, qui a accepté de venir témoigner devant nous, les élèves de seconde, de son métier et de son expérience de journaliste, grand reporter, passé par Libération, Le Nouvel Observateur et enfin Le Monde depuis 2012. À la fin de la journée, un groupe d'élèves a été particulièrement chanceux car il a pu faire une émission dans le studio Radio de l'Avacant avec Florence Aubenas et l'interviewer sur nos expériences radio, nos reportages, nos micro-trottoirs, nos questions pratiques d'apprentis journalistes. On écoute maintenant les réponses qu'elle nous a faites autour du sujet de notre émission.
Ça veut dire que le journaliste a une charte et des règles à respecter.
Oui,
oui bien entendu.
Oui. Oui.
D'accord. Et selon vous, jusqu'où peut aller un journaliste pour obtenir une information?
Il ne doit pas transgresser les règles de la morale. C'est-à-dire que si il essaye d'obtenir son information par chantage, ou en essayant de soudoyer les témoins pour avoir le type d'information qu'il veut, là, évidemment, il dépasse les limites et puis il doit toujours recouper ses informations. C'est-à-dire qu'une information qui vient que d'une seule source non vérifiée n'est pas une information fiable.
Oui, puis il doit protéger aussi les données personnelles ou alors les divulguer avec autorisation de l'intéressé.
Puis il n'est pas souhaitable d'avoir une presse qui investigue, qui fait des investigations dans la vie personnelle des gens, comme au Royaume-Uni, il y a une presse de caniveaux. Il faut que la presse reste digne, il faut qu'elle donne des informations qui relèvent de l'information et pas du voyeurisme.
Et l'information pour vous des médias est-elle toujours juste et utile ou utile?
Non, elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours utile non plus, puisque comme je le disais, des fois il y a des informations qui ne présentent pas d'intérêt, qui peuvent nuire aux personnes.
Et juste juste dans quel sens? Qui conforme à la réalité ou juste par rapport à l'équité ou l'équilibre?
Est-ce qu'elle est exacte? Est-ce que vous entendez exact?
Non, elle n'est pas toujours exacte, parce que des fois ils ne recoupent pas leurs informations. Il y a eu par exemple le cas de Timisoara où ils avaient dit qu'il y avait des morts, c'était faux, parce que souvent les gens, surtout avec à l'heure actuelle, avec les chaînes d'info en continu, il faut aller tellement vite que les gens retranscrivent et puis regardent sur le net aussi, retranscrivent l'information dont ils ne vont pas vérifier par recoupement la véracité.
Donc en général, vous ne leur faites pas confiance?
Non, c'est pas la source. De l'information peut tenter une manipulation en donnant aux journalistes une information qui est fausse ou déformée, et s'ils la retranscrivent en état, l'information n'est pas exacte.
C'est d'ailleurs un peu l'intérêt de la presse écrite, où il y a un peu de recul par rapport à l'information qui oblige quand même les gens, les journalistes à vérifier leurs données.
C'était un extrait de notre interview de micro-trottoir lors d'un mercredi pour notre émission de radio sur l'éthique des médias. Donc on a interviewé ces deux personnes qui étaient à la fin, deux personnes en extra, et c'est deux plus intéressantes, je trouve. Et est-ce que vous êtes donc d'accord avec ce qu'ils ont dit?
Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est grosso modo les règles, prévisibles du journalisme. C'est-à-dire, c'est, en effet, il faut être honnête, en effet, il faut être... respecter ce que disent les gens, il ne faut pas déformer ce qu'ils disent. Je pense que c'est... Effectivement, vous dites que c'est deux interviews de qualité, je pense aussi que c'est... Il balaye bien l'ensemble des questions qu'on peut se poser à ce propos.
Mais vous le respectez tout ça?
Non. Parce
que vous ne le faites pas?
Pas toujours. C'est-à-dire que moi, je respecte les règles du journalisme en général. C'est-à-dire que je pense que la règle fondamentale du journalisme, c'est la bonne foi. C'est-à-dire que vous faites les choses parce que ce qui vous importe, c'est l'information. Mais c'est vrai que moi, j'ai par exemple bafoué très ouvertement une règle, la principale règle du journalisme, qui est de toujours donner son identité quand vous interviewez quelqu'un. Quand vous interviewez quelqu'un, vous devez vous présenter comme journaliste. C'est-à-dire il faut dire, voilà, donner son nom et donner sa profession pour ne pas subtiliser, j'allais dire, pour ne pas... estorquer des informations en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Un meurtre a eu lieu, j'ai envie d'avoir des informations qui ne sont pas connues et je vais appeler un service de police en disant « je suis vos collègues de Paris et j'ai besoin de savoir ci et ça, est-ce que vous pouvez me le dire ?» Et donc avoir des informations qui ne sont pas connues du public pour les publier dans mon journal en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Hein? Et alors, donc ça, évidemment, la difficulté de ça, c'est que parfois, en divulguant certaines informations, vous nuisez à la suite de l'enquête. C'est-à-dire que souvent, dans une enquête judiciaire, la police garde certains éléments qu'elle ne divulgue pas pour être sûre, quand on arrête quelqu'un, que ça va être cette personne, parce que l'élément n'est connu de personne d'autre. Hein ? Donc, ce sont des choses importantes. Alors, moi, je n'ai pas obéi à cette règle, une fois dans ma vie en tout cas, parce que j'ai fait un reportage sur le chômage à Caen. Et je voulais savoir comment ça se passait. Et je ne voulais pas interviewer des chômeurs parce que je pensais qu'on n'arriverait pas à connaître le fond des choses. Et donc, je me suis fait passer pour une chômeuse. Donc, j'ai gardé ma vraie identité, mais je n'ai pas gardé mon statut social. Je n'ai pas dit que j'étais journaliste. J'ai dit, voilà, je suis demandeuse d'emploi. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, ça a été un temps long. Hein, j'ai passé presque un an à faire ça. Et ça m'a... Voilà, parce que je pensais que l'information que j'allais en tirer, je ne l'aurais pas si je faisais des interviews classiques. Donc, je ne le faisais pas pour avoir une information en cachette ou en tout cas pour... Mais pour révéler une situation que j'aurais pensé difficile. Je vous donne un exemple. Je parlais du travail, par exemple, de salariés précaires, c'est-à-dire avec des contrats, des petits contrats, des CDD, des choses comme ça. Et je pensais que les personnes, c'était essentiellement des femmes, ne pourraient pas se plaindre de leurs employeurs à un micro, ou en tout cas pas en leur nom, parce qu'elles risquaient de se faire renvoyer, tout simplement. Et que donc, si j'allais leur demander, mais est-ce que votre employeur vous paie bien vos heures supplémentaires? Est-ce qu'il vous traite bien? Elles allaient toutes dire oui devant un micro pour ne pas avoir de problème ensuite. Si en revanche, je me faisais passer pour l'une d'elles et je disais, en fait, ils ne payent pas les heures supplémentaires et moi qui me suis fait embaucher malgré eux, je vous en témoigne, ça permettait de le dénoncer sans mettre le boulot de quelqu'un en difficulté. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que ça me semblait le seul moyen de pouvoir dénoncer une situation sociale qui me semblait compliquée sans mettre en péril l'emploi de quelqu'un.
D'accord.
Donc, j'estime que c'est de la bonne foi, même si ça n'est pas dans les normes, dans les clous.
Madame, parfois il n'y a pas eu des sortes de, il n'y a pas eu des gens qui ont voulu dire que, qui se sont pas, je sais pas comment expliquer, qui voulaient pas que cette information soit divulguée, que vous, quand ils voyaient l'article sur la presse. Ils voulaient pas vous, ils vous ont pas appelé.
Si, tu as raison. En fait, les employeurs m'ont appelé en disant mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est faux. Donc les personnes qui m'employaient, donc les personnes que moi je voulais dénoncer et que j'estime avoir fait, en disant voilà, ils profitent d'une situation hein, de personnes qui sont en situation de précarité, qui doivent absolument travailler et ils les exploitent. C'est ça que je voulais raconter. Et c'est ce que j'ai écrit. Et les employeurs m'ont appelé en disant « on va vous faire un procès, parce que c'est pas vrai, c'est faux ce qui se passe, etc. » Et alors je dois dire que j'étais ravie, parce que je me disais « tiens, ils vont faire un procès, puis je vais pouvoir le dénoncer encore plus fort sur la place publique, dans une enceinte de justice. » Moi, j'étais sûre de moi, j'avais tous les documents, j'avais mes fiches de paye avec les dépassements d'horaires, etc. Donc j'étais très sûre de moi, et malheureusement, ces employeurs ont changé d'avis, ils se sont rendus compte que ça allait mal tourner pour eux. Et j'étais très déçue quand ils ont dit non, finalement, on ne fait pas de procès.
Mais si ça n'aurait fait un procès, eh bien, vos dirigeants, vos directeurs, ils se seraient rendus compte que vous n'auriez pas respecté une des règles principales.
Oui, c'est vrai.
Ça vous aurait peut-être valu votre...
carte de presse.
Oui, voilà.
Si ma carte de presse était à ce prix, je la rends. Si la carte de presse... Pour moi, être journaliste, c'est réussir à dénoncer une situation et à faire en sorte que ça change un peu. Si le moyen de le faire de bonne foi, c'est-à-dire pour une bonne raison et non pas pour divulguer, empêcher une enquête de se faire ou rompre une indiscrétion ou des choses comme ça, eh bien, si il faut renoncer à sa carte de presse pour ça, je la rends. Ça m'est égal. Si vous voulez, c'est vrai que dans la presse, les journalistes français, ils ont dans la tête un exemple. C'est-à-dire qu'on se dit, on est journaliste, ça c'est assez particulier en France, on se dit on est journaliste parce qu'on veut que ça serve à quelque chose. Donc on veut dénoncer quelque chose, révéler quelque chose, et que cette chose-là change le cours de ce qui se passe. Et alors notre exemple à tous comme journalistes, c'est, alors je vais vous citer les grands noms et les grands mots, je profite d'être dans un lycée, c'est Émile Zola. Vous voyez, Émile Zola qui a fait J'accuse dans l'affaire Dreyfus et donc qui a mis son image et même sa liberté en jeu, parce qu'il pouvait être emprisonné, en disant « Je dénonce l'État qui a fait une manipulation pour accuser quelqu'un ». Et c'était bien plus grave que de se faire passer pour ce que j'ai fait une femme de ménage, vous imaginez. Donc il y a eu, alors lui, le malheureux, un procès retentissant, il a été mis au banc. Et cet article s'appelait « J'accuse ». J'accuse le gouvernement d'avoir fait ci, j'accuse les forces armées d'avoir fait telle autre chose. Et c'est un article qui est resté très célèbre. Et nous autres journalistes français, on rêve tous un peu d'avoir un j'accuse tout petit, pas si gros que celui de Zola, mais d'avoir à un moment, de faire quelque chose qui va faire basculer ça. Donc de pouvoir mettre un innocent en liberté, faire changer une loi, faire ça. Alors on est souvent déçus, par exemple pour cette histoire de femme de ménage dont on parlait. Je me disais, tiens, si ça se trouve, on va réussir à faire changer la loi, c'est-à-dire à faire que ces emplois précaires, ces petits emplois, ces emplois où les gens ne sont pas très bien traités, j'arrive à faire changer, c'est-à-dire que les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, ben maintenant elles le seront. Et une loi va aider à ça. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et que je dénonçais ont bien payé et payent toujours les heures supplémentaires. Mais les entreprises d'à côté, non. Ça n'a marché que sur précisément celle que je dénonçais. Donc c'est une satisfaction, mais toute, toute petite. Donc j'espère faire mieux la prochaine fois.
Donc ensuite, durant ce même reportage, on avait abordé plusieurs thèmes lors du reportage. Donc l'un d'eux, c'était la laïcité et l'histoire. Donc sur le thème de la laïcité, on avait rencontré un musulman qui nous avait raconté une histoire sur un policier qui l'avait insulté. Mais ensuite, il était revenu nous voir pour... dire qu'il fallait pas enregistrer ça parce qu'il se justifiait, il disait des choses vachement intéressantes sur ce qu'il pensait de la situation actuelle sur la laïcité. Il voulait pas qu'on l'enregistre cette partie, sauf qu'en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait mis le micro plutôt caché, puis on avait appuyé sur le bouton enregistrer pendant ce temps-là.
Et alors comment ça s'est fini ? Vous l'avez divulgué ? Ou vous avez
au
dit
final, c'est pour l'émission qui va sortir à la fin du mois, on sait pas ce qu'on va en faire encore et peut-être qu'on va le divulguer ou pas, on sait pas encore, on va réfléchir. Si on fait ça dans un vrai milieu professionnel, est-ce que ça pourrait vraiment... c'est à l'encontre des règles de l'éthique du journalisme.
Alors, c'est à l'encontre des règles. Et surtout, c'est à l'encontre... les règles, on peut, à la limite, s'en affranchir. Quand la justice n'est pas juste, il ne faut pas s'en servir. Quand la règle n'est pas juste, il faut la changer ou en tout cas la contourner. Là, le problème dans lequel... vous allez vous affronter, c'est qu'en fait, ce garçon risque d'avoir des problèmes. En tout cas, c'est ce qu'il craint. Et si vous le mettez, lui, en danger, à ce moment-là, il y a une autre règle du journalisme qui s'appelle la protection des sources. Et c'est justement à cause de cette règle-là que je n'avais pas voulu faire ce reportage sur les femmes de ménage à visage découvert, en disant « je suis journaliste », parce que je ne voulais pas mettre en danger les personnes que j'interviewais. Et donc là, vous vous retrouvez dans ce même cas de figure. Donc moi, à votre place, je ne le divulguerai pas. Pour respecter ce garçon qui peut avoir des problèmes. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est faire quelqu'un, enregistrer quelqu'un qui va raconter ce reportage. Et donc le faire non pas sous une forme d'interview, mais dire voilà, nous avons rencontré quelqu'un qui nous disait telle chose et telle chose, en masquant son âge, son identité, donc sa voix non plus ne sera pas reconnaissable. Et dire, et voilà, cette personne estime que ce qu'il dit est tellement compliqué, dangereux, ou en tout cas... pourrait causer des problèmes, qu'il ne veut même pas le dire. Et donc, à ce moment-là, dire que quelqu'un demande l'anonymat est aussi une information. C'est-à-dire qu'elle vous donne, en tout cas, un contexte de peur et de crainte d'une personne, ce qui est une information.
D'accord. Donc, cette règle que nous avons un peu enfreinte dans l'éthique du journalisme, elle est vraiment enfreinte quand on va divulguer ou à partir du moment où on va enregistrer l'information ?
Moi, je dirais que c'est quand on le diffuse. Alors, évidemment, on pourrait se dire c'est un peu se cacher derrière son petit doigt parce que l'enregistrer peut déjà être compliqué. Et à partir du moment où vous le faites en cachette, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez dit à ce garçon, finalement, on t'enregistre en cachette et on va le diffuser quand même. Enfin, vous mettez dans une situation compliquée. Alors donc, en général, ce recours d'enregistrer en cachette, on le fait... Quand il s'agit de faire parler quelqu'un, entre guillemets, pour le dénoncer. Donc la seule manière de le révéler, de s'en défendre et de faire cesser une situation qu'on estime pas appropriée, est de faire ça. Mais pour que quelqu'un, forcer quelqu'un à dénoncer malgré lui, alors qu'il peut lui en coûter, je pense pas que ce soit une bonne situation. En revanche, il y a certaines personnes, il y a des associations, des organismes qui dénoncent cette situation sur la laïcité, j'imagine, de ce que dénonçait ce garçon musulman dont vous parlez. Donc il y a d'autres moyens de l'obtenir sans manquer de parole vis-à-vis de votre interlocuteur, vis-à-vis de votre source, comme on dit dans le métier.
Nous remercions vivement Madame Florence Aubenas pour sa grande disponibilité envers nous, pour sa curiosité envers nos projets radio et nos expériences journalistiques, et surtout pour ses précieux conseils. Vous serez toujours la bienvenue dans notre lycée et nos studios radio, Madame Aubenas. C'est une personne très joyeuse, simple et accessible.
Elle dit souvent et toujours même la vérité, même si ça peut nuire à sa carrière. Moi, je trouve que c'est une personne très forte, qui est forte d'esprit et de caractère. Et je trouve ça assez incroyable.
Avec beaucoup de courage. Vous êtes toujours sur ablocradio.fr dans l'émission Parlons peu, parlons bien de l'éthique des journalistes, réalisée par les élèves de seconde B, groupe 1. Voici à présent le moment de la revue de presse sur notre thème par Quentin et qui va nous parler de la Turquie.
Alors, en Turquie, le principal parti pro-kurde a affirmé qu'il fait l'objet d'un embargo médiatique qui étouffe sa campagne contre le renforcement des pouvoirs du président qui devrait se faire le 16 avril 2017. En effet, le Parti démocratique des peuples, HDP, étant le deuxième parti formant l'opposition, a affirmé qu'il était l'objet d'un dangereux embargo médiatique pendant une époque cruciale qui va déterminer le destin de la Turquie. Selon des études menées, il s'avère que sur la chaîne de télévision publique TRT, censée être impartiale, il y a eu du 1er au 22 mars 1390 minutes consacrées au président, 2723 minutes consacrées au parti au pouvoir, AKP, et 0 minute au Parti démocratique des peuples. De plus, pas un seul représentant du HDP n'a été invité, serait-ce qu'à une émission, dénonce le HDP.
Merci Quentin. Nous remercions tout particulièrement Madame Raphaël Baquet, Madame Florence Aubenas et Monsieur Leroux, les habitants d'Auch ainsi que les élèves et personnels de Beaulieu qui ont répondu à nos questions. Cette émission a été réalisée dans les conditions du direct dans le studio radio du site de Beaulieu de notre lycée agricole d'Auch. Au micro, vous avez pu entendre Hugo, Quentin, Alice, Kélian, Bastien, Martin et Hugo. À la technique, nous avions Loïc, Clément et Sylvain. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que notre émission vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les valeurs que défendent et doivent respecter les journalistes. A bientôt sur ablocradio.fr. Au revoir.
Au revoir.
C'était quoi ?
Parlons peu, parlons bien.
C'était ?
Parlons peu, parlons bien.
De l'éthique des journalistes.
Parlons peu, parlons bien.
Parlons peu, parlons bien.
Parlons peu, parlons bien.
Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien.
Parlons bien.
C'était bien.
C'était très bien même.
Adichat. Adios.
Goodbye.